Bienvenue dans le deuxième module de ce cours grâce auquel vous apprenez à développer un site web en PHP et à le déployer ensuite sur Azure, l'environnement cloud de Microsoft. Alors avec ce deuxième module, nous allons ensemble préparer notre environnement de développement sous Windows. Si vous travaillez au sein des environnements Mac ou Linux, alors il faut vous reporter au module précédent. Voyons notre sommaire pour ce second module. Il se décompose en trois parties. Au sein de la première partie, nous allons découvrir ce qu'est un éditeur de code et nous procéderons à l'installation de deux d'entre eux. Nous intéresserons dans la deuxième partie à ce qu'est un IDE. Je vous en proposerai également deux. Et nous terminerons enfin par l'affichage au sein d'une page PHP d'un Hello World. L'objectif de cette troisième partie sera de vérifier que finalement notre environnement de développement est parfaitement fonctionnel. Les éditeurs de code. Alors sur le marché des éditeurs de code, il y en a pléthore, il y en a de très nombreux. Les deux que je vous propose ici ont le mérite d'être gratuits, d'être tous deux fonctionnels sur la plateforme Windows. Et même pour le premier Sublime Text, il est également installable sur Mac et sur Linux, ce qui n'est pas le cas de son concurrent Notepad++. Je vous propose sans perdre de temps de découvrir le premier. Alors pour le récupérer, c'est simple, il suffit de faire une sélection parmi les deux liens qui vous sont proposés ici. Pour ce qui me concerne, je sélectionne le second. J'enregistre l'exécutable sur mon bureau. Voilà, et je vous propose qu'on fasse immédiatement la même chose avec Notepad++. Le lien de téléchargement se trouve ici. Et au changement de la page, on va sélectionner le premier lien qui nous est proposé à cet endroit. Et on va l'enregistrer de même sur notre bureau. Voilà. Donc quelques secondes encore avant que cela soit terminé. En attendant, on va lancer l'installation de notre premier éditeur. C'est Sublime Text. Donc on double-clique sur son exécutable. Voilà, on est d'accord avec tout. On procède à l'installation. C'est terminé. Donc vous voyez, c'est assez rapide. On va faire de même, avec le second éditeur Notepad++. On est pareil, d'accord avec tout. On procède de même à l'installation. Et on le lancera ensuite. On va commencer par regarder Sublime Text. Voilà, il y a déjà un fichier PHP qui est ouvert à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'un éditeur de texte? Au moins trois choses. Premièrement, c'est qu'il fasse de la coloration syntaxique. C'est le cas ici de Sublime Text. On le voit avec, je vais peut-être zoomer un petit peu, on le voit avec ici les mots-clés les fonctions natives de PHP qui sont ici dans une couleur. On le voit également avec d'autres mots-clés comme les conditions ou les boucles ici, ou les opérateurs de comparaison qui sont dans une autre couleur. On a également toutes les chaînes de texte qui sont représentées dans une autre couleur. Donc tout ça va nous aider quant à la lecture du code. Le deuxième élément qu'on attend d'un éditeur de texte, c'est qu'il fasse de l'indentation de code. L'indentation, c'est le fait de décaler soit avec des espaces, comme c'est le cas ici, soit avec de l'indentation, les lignes de code qui sont incluses dans d'autres lignes de code. Donc c'est le cas par exemple ici, si on regarde la condition if qui est décrite ici, on voit très bien que la boucle while qui se trouve à l'intérieur est décalée sur la droite avec des espaces. Ça permet aussi de faciliter la lecture du code et c'est vraiment indispensable pour s'en sortir. Le troisième élément qui est attendu d'un éditeur de code, c'est qu'il nous propose de l'autocomplétion. Alors, je ne vous cache pas que Sublime Text s'en sort très bien avec ça. Et en plus de nous proposer immédiatement les fonctions PHP qui commencent par défaut comme on le voit ici, Il va nous assister quant à la saisie des paramètres qui sont obligatoires pour les fonctions qui sont appelées. Par exemple, ici, je voulais en effet appeler la fonction PHP qui s'appelle fopen, qui permet d'ouvrir un fichier. Il me la propose assez rapidement après la saisie des deux premières lettres. J'appuie simplement sur Entrée pour valider la sélection que Sublime Text me propose. Et ici, Sublime Text me présente tout de suite les deux paramètres obligatoires qui sont attendus par cette fonction. Et surtout, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il conserve la sélection sur le premier paramètre. Il me suffit d'appuyer une fois sur la double cote pour indiquer que je vais maintenant saisir une chaîne de texte. Automatiquement, Sublime Text positionne la double cote à la fin de cette chaîne de texte. Il conserve également la sélection sur FileName, ici, sur le premier paramètre, ce qui me permet de saisir directement le nom du fichier que je souhaite ouvrir. Pour passer au second paramètre, j'ai plus qu'à faire tabulation. Voilà. De même que tout à l'heure, appuyer une fois sur la double cote, il me conserve une fois de plus la sélection pour indiquer le mode d'ouverture dans lequel je souhaite me positionner. Ici, on pourrait imaginer vouloir ouvrir ce fichier en mode lecture seule. On indique donc comme second paramètre la lettre R. On termine avec un point-virgule. Voilà. Donc au niveau de Sublime Text, quant à l'autocomplétion, mais aussi à la saisie des paramètres sur les fonctions choisies, on est vraiment, vraiment très bien assisté. Je supprime cette ligne. Alors autre chose qui est vraiment pratique, sympa dans Sublime Text, c'est la possibilité de modifier de façon distincte sur des lignes séparées, par exemple, un nom de variable. Imaginons que je veuille ici modifier le nom de cette variable qui s'appelle currentDate. En double-cliquant dessus, il me la met en évidence sur la ligne 10 et également sur la ligne 13. Mais si, pour l'instant en tout cas, je change le nom de ma variable sur la ligne 10, elle ne se change pas automatiquement sur la ligne 13. Alors vous pourriez me dire, oui, bah, il n'y a qu'à faire du rechercher et remplacer. En effet, c'est ce que proposent beaucoup d'éditeurs de code, ou de simples éditeurs de texte même parfois. Mais nous, avec Sublime Text, on va pouvoir faire bien mieux que ça. Et grâce à un raccourci clavier, on va pouvoir remplacer dynamiquement le nom de cette variable en même temps sur la ligne 10 et sur la ligne 13, mais aussi sur toutes les autres lignes éventuelles où ce nom de variable serait disponible. Pour faire ça, il faut donc appuyer sur les touches, sur la combinaison de touches Alt F3. On voit que sur la ligne 10 et 13, mon curseur se met à clignoter aux deux endroits de façon distincte et que la sélection du nom de variable que je souhaite remplacer est effective également sur ces deux lignes. Alors je veux remplacer par exemple currentDate par myDate, donc je saisis et on voit, et là c'est vraiment génial, que le nom des variables change à la fois sur la ligne 10 et sur la ligne 13. De même, si je voulais mettre en commentaire de façon distincte ces deux lignes, eh bien il suffit que j'appuie sur CTRL slash pour passer en commentaire ces deux lignes et que je rappuie sur CTRL slash pour faire l'opération inverse et revenir à du code PHP. Donc voilà pour cette petite assistance qui est vraiment pratique. Autre chose que nous propose Sublime Text qui va faciliter notre déplacement au sein de fichiers qui peuvent être parfois longs, c'est ce qu'on trouve dans la partie droite ici de Sublime Text. C'est un navigateur qui va me permettre de me déplacer très rapidement dans un fichier PHP qui pourrait être un peu long. Ça, c'est assez pratique plutôt que d'utiliser l'ascenseur ou la moulinette de la souris. Également, on retrouve dans Sublime Text la possibilité de plier ou déplier du code. Par exemple, si je ne souhaite pas voir cette zone de commentaire, en cliquant sur cette petite flèche, je peux replier le commentaire. Il va être capable de repérer les boucles et les conditions pour proposer cette même fonctionnalité. Je peux donc replier tout le contenu de cette condition if ou alors replier tout le contenu de cette boucle while. Et on peut faire la même chose dans le code PHP que vous avez sans doute remarqué ici en partie basse de ce fichier PHP. Voilà un petit peu pour Sublime Text. Je vous propose maintenant de regarder son concurrent, Notepad++. Il est disponible pour ma part dans ma barre des tâches ici. Je le lance en cliquant sur son icône. Et on se retrouve donc dans Notepad++. Alors, bon, on retrouve les éléments, visiblement en tout cas, qui sont importants concernant l'assistance au code, c'est-à-dire qu'on retrouve la coloration syntaxique, on retrouve l'indentation du code, on le voit très bien ici, et on va retrouver également l'autocomplétion. Par exemple, je saisis FO, comme tout à l'heure, je retrouve FOpen, j'appuie sur Entrée pour valider la sélection qui m'est proposée par Notepad++. Par contre, on voit que par rapport à Sublime Text, on est un petit peu moins aidé. C'est-à-dire qu'après avoir validé FOpen, Sublime Text me proposait déjà les parenthèses ainsi que tous les paramètres à l'intérieur. Là, je dois me débrouiller un petit peu plus. Donc j'appuie sur la touche qui me permet d'ouvrir une parenthèse. On voit qu'on a une petite assistance documentaire qui me dit que le premier paramètre, c'est une chaîne de texte qui correspond à un nom de fichier, que le deuxième paramètre, c'est également une chaîne de texte qui correspond à un mode d'accès au fichier, mais je dois saisir tout moi-même. Ce qui n'était pas le cas dans Sublime Text. J'étais vraiment beaucoup plus assisté. Donc là, un point pour, à mon avis, un point de moins pour Notepad++ par rapport à Sublime Text. De même, au niveau de l'indentation, Notepad++ fait un petit peu moins bien. Quand je reviens derrière l'accolade d'ouverture, l'indentation se fait pas bien. C'est à moi d'appuyer sur la touche tabulation pour éventuellement mettre le code que j'aurais envie de positionner ici, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas de Sublime Text, qui m'aide davantage, qui fait ça de façon un petit peu plus intelligente. Par exemple, là, si je mets en place ma condition, voilà, à peine j'ai terminé de fermer l'ouverture de ma, d'ajouter l'ouverture de mon accolade, l'accolade fermante est bien placée, mon curseur de saisie se met au bon endroit, ça fonctionne très très bien, il n'y a aucun souci, et à mon avis, ça fonctionne vraiment mieux que sur Notepad++. On retrouve ici la possibilité, comme dans Sublime Text, de plier et de plier, déplier des zones de code, comme les commentaires, les boucles ou les conditions. Par contre, on n'a rien pour naviguer dans le code. Donc là, il faut se servir de l'ascenseur ou de la souris. Voilà donc pour ces deux éditeurs dont je voulais vous parler. Vous l'aurez compris, j'ai personnellement une nette préférence pour notre ami Sublime Text. Mais libre à vous de sélectionner celui qui vous plaît le plus. Je vous propose maintenant d'attaquer avec la seconde partie et donc de voir ce qu'est un IDE. Alors j'ai déjà évoqué cette notion dans le module précédent. Un IDE, si on devait le traduire en français, on pourrait dire qu'il s'agit d'un environnement de développement intégré. Pourquoi intégré? C'est parce qu'il va intégrer en son sein un ensemble de fonctionnalités et d'outils qui sont destinés à faciliter davantage la vie du développeur. Alors c'est ce que vont vous proposer les deux IDE que je vous propose ici, qui sont tous les des outils proposés, édités par Microsoft. Donc on trouve WebMatrix et Visual Studio. Le premier a le mérite d'être gratuit. Le second propose à la fois des versions gratuites et des versions payantes. Nous en parlerons un petit peu plus tard. Alors regardons dans un premier temps WebMatrix. Pour le télécharger, il suffit de cliquer sur le bouton de download ici, d'enregistrer l'exécutable sur le bureau. Voilà. De double-cliquer sur cet exécutable. Alors on constate une chose que je tiens malgré tout à vous préciser, c'est que l'installation de WebMatrix va se faire en passant par un autre outil, également édité par Microsoft, qui s'appelle Web Platform Installer ou WebPI. Et grâce à WebPI, vous avez la possibilité d'installer plein d'autres outils qui peuvent être utiles aux développeurs. Si par exemple vous souhaitez installer sur Windows une autre version de PHP, vous pouvez le faire avec Web Platform Installer, avec WebPI. Alors on voit une chose que vous avez peut-être déjà remarqué, c'est que ici en bas de notre boîte de dialogue, le bouton d'installation pour ma part est désactivé. Pourquoi? Eh bien parce que vous l'avez peut-être aussi remarqué, WebMatrix sur ma machine est déjà installé. Alors ça ne doit pas vous empêcher vous de cliquer sur le bouton install et d'aller jusqu'au bout de la procédure, mais sachez que quand WebMatrix est déjà installé, WebPI ne vous propose pas de le réinstaller. Il faudrait d'abord procéder à cette désinstallation pour pouvoir avoir accès à une réinstallation. Alors on va juste lancer WebMatrix. Donc je vous le disais, pour ma part, il est déjà installé et disponible dans ma barre des tâches, ici. Donc je clique sur cette icône. Et voilà à quoi ressemble WebMatrix quand on le lance pour la première fois. Il nous donne la possibilité de voir des sites déjà créés par WebMatrix, de créer deux nouveaux sites, soit vides, soit à partir d'une galerie d'applications comme par exemple WordPress, Drupal, Joomla, etc. Ou même d'ouvrir, par exemple, un site web déjà hébergé sur Windows Azure, un site web contenu dans un dossier, ou encore un site web qui est déjà hébergé sur un source control. Donc voilà un petit peu ce que nous permet de faire WebMatrix. Je ne vais pas plus loin dans la présentation de WebMatrix, puisqu'on va revenir dessus quand on va créer notre fichier PHP Hello World tout à l'heure. Donc je le ferme pour le moment. Je vous propose donc de découvrir maintenant Visual Studio, donc cette autre IDE également éditée par Microsoft, qui, je vous le disais également, est proposé en deux grandes versions, les versions payantes et les versions gratuites. Les versions payantes, elles vous sont proposées ici dans cette partie supérieure, et les versions gratuites vous sont proposées ici, à cet endroit. Alors, bon, on pourrait se dire, on a envie de développer du PHP avec Visual Studio, pourquoi ne pas s'appuyer sur une version gratuite, donc une version express de Visual Studio? Le souci, c'est que les versions gratuites de Visual Studio ne nous permettent pas l'installation d'extensions. Or, pour pouvoir développer en PHP avec Visual Studio, nous allons être contraints d'installer une extension qui va nous permettre cela. En effet, Visual Studio, quelle que soit sa version, ne permet pas par défaut le développement de PHP, de développement d'applications ou de sites web avec PHP. Nous sommes donc obligés ici d'aller chercher et installer une version payante de Visual Studio. Alors rien ne vous empêche de récupérer ici une version dite payante de Visual Studio, sachant que vous avez les versions payantes qui sont proposées ici. Alors vous avez différentes versions, de la plus chère qui est l'Ultimate, à la moins chère qui est la professionnelle. Et l'avantage, c'est que ici vous avez une version, un essai gratuit pendant 3 mois de ces versions. Donc dans le cadre de ce cours, ça peut parfaitement convenir. Sélectionnez donc la version professionnelle de Visual Studio, vérifiez que vous êtes bien en français et cliquez simplement sur ce lien là pour procéder à la récupération de l'exécutable qui va vous permettre d'installer Visual Studio dans sa version professionnelle. cliquez à nouveau sur ce panneau de gauche pour conserver la version professionnelle de Visual Studio. Ensuite, vous enregistrez l'exécutable sur votre bureau et il ne vous restera plus qu'à double-cliquer sur cet exécutable pour procéder à l'installation de la version professionnelle de Visual Studio. Je ne vais pas de mon côté procéder à cette installation puisque vous l'aurez compris, j'ai déjà une version de Visual Studio sur ma machine. Cette installation, elle est un peu longue, donc on va pas la faire ici. Mais vous pouvez parfaitement procéder à l'installation et poursuivre ce module ensuite. Je lance donc la version que j'ai sur ma machine de Visual Studio, qui est une version Ultimate. Mais pour ce qu'on va faire là, encore une fois, la version professionnelle suffit largement. Je vous rappelle donc que par défaut avec Visual Studio, il n'y a pas de possibilité de développer en PHP. Pour cela, il faut qu'on procède à l'installation d'une extension. Et on va aller, pour y arriver, dans le menu Tools, sélectionner la commande ou outil en français, la commande extension qui se trouve à peu près en son centre. Ensuite, on va aller chercher la commande, la zone online. Donc on clique dessus. Et ensuite, sur la partie supérieure droite de cette boîte de dialogue, on va aller chercher la première extension qui permet de développer avec PHP sous Visual Studio. Elle s'appelle vs.php. Si vous voulez l'installer, il suffit de la sélectionner ici, de cliquer sur le bouton Download. Vous allez être redirigé sur le site de vs.php. Et il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton de chargement de l'exécutable d'installation. Alors nous, on va préférer une autre extension qui s'appelle PHP Tools. On va donc revenir ici dans notre interface d'installation des extensions sous Visual Studio et on va indiquer à la place de vs.php, on va indiquer PHP Tools. Alors ces deux extensions sont-elles aussi payantes? Mais cela reste dans des coûts tout à fait raisonnables. Voilà, le gestionnaire d'extension a trouvé l'extension qui nous intéresse, c'est celle-ci, hein, puisqu'on est sur une version 2013 de Visual Studio. Pour l'installer, je clique sur le bouton Download ici. Je vais enregistrer l'exécutable d'installation toujours sur mon bureau. Voilà, je clique sur Save ici. J'attends que la récupération se termine. En attendant, ce que je peux faire, c'est fermer la boîte de dialogue de gestion des extensions. Je vais également fermer Visual Studio puisque à l'installation, PHP Tools va de toute façon me demander de fermer Visual Studio. Il n'est pas capable de s'installer en même temps que Visual Studio reste ouvert. Voilà, le téléchargement est fini. Je double-clique sur l'exécutable d'installation. Je vérifie que c'est bien la version qui nous intéresse qui est activée et je clique ensuite sur le bouton d'installation. Voilà, on y va. On dit qu'on est d'accord. L'installation est assez rapide. Voilà, PHP Tools est donc maintenant installé à l'intérieur de Visual Studio et va nous permettre de faire du développement PHP grâce à Visual Studio. Je relance Visual Studio. Et je vais donc, au sein de Visual Studio, pouvoir créer un nouveau projet PHP. Alors, on voit l'interface est un petit peu plus fournie que ce que nous proposent les éditeurs de code. On va avoir sur la partie droite différentes fenêtres, comme l'explorateur de solutions, qui est en gros l'explorateur de projets. On va avoir aussi cette boîte de dialogue qui nous permet, cette zone, pardon, fonctionnelle qui nous permet de relier ou d'ouvrir du code à partir d'un source contrôle. On va avoir d'autres zones sur la gauche ici qui nous permettraient par exemple d'aller chercher des sites web déjà hébergés sur Azure. On va avoir des boîtes d'outils et puis d'autres fonctionnalités qui nous permettent encore une fois de nous faciliter la vie. Alors pour créer un nouveau fichier PHP, un nouveau projet PHP, il suffit d'aller sur la commande fichier dans le menu, puis la commande new et enfin la commande project, ou alors d'utiliser le raccourci clavier correspondant CTRL SHIFT N. On vérifie ici qu'on a bien sélectionné la catégorie PHP, qu'on a bien choisi le type de projet qu'on souhaite créer. Ici, il s'agit d'un projet web. Et ensuite, on prend soin de donner un nom un peu plus sympa que le nom par défaut. Par exemple, Hello World. On va l'enregistrer sur le bureau, c'est très bien. Et on valide en cliquant sur OK. Si je retourne en bas à droite de je vais le réouvrir, ce je l'ai malencontreusement fermé, voilà, il est réouvert. Donc si on va en bas à droite de notre interface graphique de Visual Studio, il faut, pour visualiser le contenu de notre projet, cliquer ici sur Solution Explorer. Alors si Solution Explorer n'est pas ouvert dans votre version Visual Studio, en haut à droite ici, vous avez un champ qui va vous permettre de faire une recherche sur l'ensemble des panneaux que on peut activer dans Visual Studio. Alors il suffit de faire une recherche sur pardon, Solution Explorer. Voilà, et il va me le proposer ici. Donc en cliquant dessus, je vais pouvoir l'afficher directement s'il n'est pas déjà affiché ou l'activer s'il est déjà présent dans mon interface. Qu'est-ce qu'on observe? On observe ici dans mon visualisateur de projet que j'ai un seul fichier qui a été créé ici qui s'appelle index.php. Si on double-clique ici pour l'ouvrir, on s'aperçoit que, comme pour les éditeurs de code, on va avoir de la coloration syntaxique. On va avoir aussi également accès à l'indentation. Par exemple, si je fais le même test que tout à l'heure dans mes éditeurs de code, voilà, en revenant derrière l'accolade, automatiquement Visual Studio repositionne mon curseur au bon endroit pour indenter correctement mon code. On va avoir accès également à de l'autocomplétion. Si je fais comme tout à l'heure, toujours dans mes éditeurs de code, je tape le début de FO qui me permet de trouver la fonction native de PHP FOpen pour ouvrir des fichiers. En appuyant sur Entrée, j'ai fait la sélection de ma fonction FOpen. Et là, un petit peu comme sur Notepad++, on a de l'assistance documentaire, mais pas encore une vraie assistance à la saisie du code. Donc, c'est à moi d'écrire moi-même mes paramètres, comme on l'a vu dans Notepad++. Alors, ce que va proposer en plus par rapport à un éditeur de code, c'est ce gestionnaire de projet qu'on a vu déjà sur le côté droit. C'est surtout aussi la possibilité de positionner des points d'arrêt pour interrompre l'exécution de mon code et visualiser ce qui se passe à ce moment-là, dans mes variables, par exemple, et ça, c'est vraiment indispensable quand on fait beaucoup de développement, et c'est ce qu'on attend d'un véritable IDE. Et puis, on va trouver aussi également sur la droite un panneau qui s'appelle Team Explorer, ici, qui va nous permettre de relier notre code source à un gestionnaire de source comme Team Foundation Server ou visualstudio.com ou même le relier à un Git comme GitHub par exemple. Voilà un petit peu pour Visual Studio, donc qui est un environnement complet, on l'a vu, hein, assez riche de développement. et qui permet, y compris aux développeurs PHP, après avoir installé l'extension qui va bien, extensions au passage qui sont payantes aussi, hein, bon, je le rappelle. Voilà, on va quitter Visual Studio et on va terminer notre cours par la réalisation de notre Hello World qui nous permettra de vérifier que notre environnement de développement fonctionne parfaitement. Donc, je vais fermer un peu tout ça. Voilà, voilà. Et je vais revenir à notre présentation. Et donc, on va passer à la démo de notre Hello World. Alors, pour ça, je vais utiliser WebMatrix. Donc, on le relance. Je vais créer, en cliquant sur le centre, ici sur le bouton New. Et je vais ensuite sélectionner l'option qui me permet de créer un site vide. On passe cette étape qui consisterait à héberger tout de suite notre site web sur Azure. C'est quelque chose qu'on verra dans les modules 5, 6 et 7. Alors, quand on est développeur, on aime assez bien travailler proprement. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur le nom de mon dossier qui va contenir l'ensemble des fichiers de mon projet, eh bien, on va le renommer en faisant un clic droit sur le nom de ce dossier. Et on va l'appeler Hello World. Voilà. On regarde en bas que ici WebMatrix m'indique qu'il a correctement renommé le site et qu'il a même déjà démarré ce site web. En effet, quand vous installez WebMatrix, vous installez en même temps, c'est fait de façon transparente bien entendu, un serveur web qui est également édité par Microsoft, qui s'appelle 2IS Express, qui est une version allégée de 2IS, le service web d'hébergement de pages web de Microsoft. Donc vous n'avez pas à vous soucier d'installer en plus un serveur web à côté de WebMatrix, il l'a fait déjà pour vous. Ça c'est la force de l'installation de cet outil. Donc on va rajouter maintenant, toujours dans cette zone de projet, un nouveau fichier en faisant un clic droit et en sélectionnant la mention nouveau fichier ou new file. On sélectionne directement le type de fichier qui nous intéresse. On voit qu'au passage on peut écrire dans d'autres langages. On nomme le fichier index.php, un petit peu comme Visual Studio nous l'avait proposé lorsqu'on a créé notre fichier projet à l'intérieur de Visual Studio. Pourquoi index.php? Là aussi c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dans le module précédent, mais je le rappelle ici, tout simplement parce que les serveurs web, qu'il s'agisse de 2IS, 2IS Express, ou Apache sous Mac, sous Linux ou même sous Windows, vont par défaut, ou en tout cas sont configurés par défaut pour aller exécuter une page qui s'appelle index.php. C'est-à-dire que quand vous allez saisir votre URL locale qui vous permettra dans votre navigateur de regarder votre page web, en faisant http://localhost, le fichier PHP qui va être recherché, c'est bien celui-ci, c'est index.php. Donc on valide, on conserve ce nom que nous avons saisi. On voit qu'il est venu s'ajouter ici dans l'arborescence de notre projet. Là aussi, WebMatrix va nous assister un peu en rajoutant du code, à la fois des balises d'ouverture de code d'exécution PHP, d'ouverture et de fermeture, et en partie inférieure, du code HTML5. Alors, c'est dans cette partie-là que nous allons saisir notre code PHP qui va nous permettre d'afficher notre fameux Hello World. On fait appel à la commande echo, à la fonction native de PHP echo, qui permet d'afficher une chaîne de texte ou le contenu d'une variable qui elle-même contient, par exemple, une chaîne de texte. On pourrait aussi utiliser, ça c'est une petite précision que j'apporte, que j'ai également évoquée dans le module précédent, la fonction print, mais en PHP la fonction print est un alias de la fonction echo. Donc pour gagner un tout petit peu en exécution, on préférera conserver plutôt la fonction echo. Ensuite, on va ouvrir les côtes double côte pour indiquer que l'on veut afficher une chaîne de texte. On saisit la chaîne de texte à afficher, hello world, point d'exclamation, et on termine notre instruction PHP par un point virgule. En PHP, toute instruction doit se terminer par un point virgule. On enregistre. On n'a pas nécessairement besoin du code HTML qui se situe en dessous, on va donc le supprimer. On réenregistre à nouveau, et là c'est le miracle de WebMatrix, c'est ce que proposent d'autres IDE aussi, mais là c'est vraiment très simple, justement parce qu'on a deux IS Express qui tournent derrière. En appuyant simplement sur le bouton Run qu'on trouve tout en haut à gauche de notre ruban dans WebMatrix, eh bien, on va pouvoir lancer, visualiser immédiatement notre site, notre page web. C'est ce que je fais maintenant, et on voit, au miracle, que notre Hello World s'affiche correctement. Ça veut donc dire que notre environnement de développement fonctionne, que le code PHP est correctement interprété, que notre service web tourne également correctement. On a donc tout ce qu'il faut pour, sous Windows, pouvoir entamer le développement d'un site web un petit peu plus avancé. C'est ce que nous allons faire au prochain module, toujours dans cet environnement de développement, grâce à WebMatrix, et en s'appuyant sur le petit serveur 2IS Express qui lui est rattaché. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain module, module dans lequel, en effet, nous commencerons le développement d'un site web PHP. Nous nous attacherons également à assurer une correcte présentation, et dans le module d'après, le module 4, nous irons un petit peu plus loin dans le développement de PHP en abordant des fonctionnalités plus avancées. Voilà, à très bientôt donc pour la suite de ce cours.